écouter, réviser, en attendant de retrouver la grande table et ses invités, heureuse de vous retrouver tous les midis pour 5 semaines spéciales. Le temps d'un confinement, France Culture fait résonner dans la voix de grands comédiens les mots de grands écrivains et vous invite à lire ou relire des classiques signés Apollinaire, Molière, Stendhal ou encore Marguerite Yourcenar. Des romans, des pièces ou des poèmes, révisez ces œuvres de notre patrimoine littéraire au programme du bac de français, analysé pour vous par des professeurs et inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on retrouve Phèdre de Jean Racine, Théramène raconte.
Écoutez, révisez, Olivia Gesbert.
Dernière grande tragédie de Racine, créée en 1677, Phèdre met en scène l'amour incestueux d'une reine pour son beau-fils, Hippolyte, fils de Thésée. Phèdre, folle de désir et malade de cette passion coupable. Après l'aveu, quel dénouement, il ne pouvait être que tragique et radical. Au royaume de Trézène, l'heure du retour à l'ordre a sonné, morale et politique. Cause du mal, Phèdre elle-même en appelle à rendre au jour toute sa pureté. Mais cette pureté a un prix, celui du sang. 3 personnes au moins vont mourir pour permettre ce retour. Œnone tout d'abord, scène 5. La confidente de Phèdre qui se précipite dans les flots après avoir poussé sa maîtresse à avouer son amour à son beau-fils, après avoir accusé à tort Hippolyte d'aimer sa belle-mère. Hippolyte ensuite, scène 6, le fils de Thésée, le héros aimé mais déshonoré, puis banni injustement par son père. Il va mourir au combat après avoir terrassé un formidable monstre, écrit l'auteur. Celle de Phèdre, enfin, dernière scène, Phèdre qui s'empoisonne, victime à la fois de la passion et de sa grandeur, entre responsabilité et culpabilité. Consciente de sa propre monstruosité, elle meurt pour sauver son honneur. La tragédie, vous l'entendez, s'annonce crescendo, par paliers, en 3 scènes. Dans la première, c'est la mort d'un personnage dit secondaire, pleinement coupable, mais qui n'aura pas révélé toute sa part de mystère, Œnone. Dans la seconde, une mort épique attend le lecteur, travaillée par le merveilleux mythologique qui fait de Thésée et de nous, les spectateurs impuissants du sacrifice d'un innocent, c'est bien sûr d'Hippolyte qu'il s'agit. Enfin, dans la 3e et dernière scène, la mort de cette femme qui n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente, comme l'écrit Racine dans sa préface, déchirée entre sa malédiction et sa lucidité, sa mort constitue l'acmé tragique de la pièce. Dans cette montée en puissance dramatique, l'auteur a aussi recherché une unité, avec 2 motifs, et notamment celui de la mère. Mère mortifère, tout comme l'est la belle-mère qui tue et se tue. Les flots, d'abord, où se jette Œnone et d'où surgit le monstre, puis le poison glacé qui coule dans les brûlantes veines de Phèdre. Et le motif du monstre, cette figure fantastique, qui surgit pour accomplir toute la logique poétique et tragique de la pièce. Avec elle, la condamnation d'Hippolyte par Thésée, qui était venu à bout du Minotaure pour mémoire, apparaît monstrueuse. Dans le même mouvement, la conscience de sa monstruosité emporte une Phèdre qui avait demandé à Hippolyte de délivrer l'univers d'un monstre avant d'accabler Œnone, traité à son tour de monstre exécrable. Même si Œnone et Phèdre portent un monstre intérieur, Hippolyte, lui, incarne la pureté même. Le monstre qui surgit et qu'il combat est une bête fantastique. Le récit de Théramène que vous allez entendre parachève la tragédie de Racine. Joyeux poétique de presque 100 alexandrins, ce récit est un morceau d'anthologie et un morceau de bravoure pour le comédien qui joue le rôle de gouverneur d'Hippolyte. C'est le récit de la mort en héros du fils de Thésée, mélange de mythologique et de merveilleux païen. Dans une pièce où le souci de rationalisation des personnages semble avoir présidé à l'écriture, dans sa préface, Racine ne qualifie-t-il pas de raisonnable le caractère de Phèdre ? L'irruption de ce monstre furieux, indomptable taureau, dragon impétueux, surgit des flots, la gueule enflammée, ne semble guère croyable. Racine laisse soudain l'invraisemblable envahir la scène tragique. Dans ce récit, Racine se fait poète, empruntant non seulement à ses modèles antiques, Euripide et Sénèque, et à ses prédécesseurs français qui avaient déjà donné des versions très étoffées de l'épisode comme Gabriel Gilbert, mais aussi à l'Énéide de Virgile et aux Métamorphoses d'Ovide, entre épique et merveilleux. Reste à savoir pourquoi Racine a donné au massacre de l'innocence même, celle d'Hippolyte, les couleurs de l'invraisemblable et de l'irreprésentable. Je vous laisse y réfléchir en écoutant le récit de Théramène, interprété ici par Michel Favori, et toujours Elsa Le Poivre dans le rôle de Phèdre, un enregistrement d'octobre 2015 réalisé au studio 104 de la Maison de la Radio avec les comédiens de la Comédie Française. Le reste de la distribution est à retrouver sur franceculture.fr. Tout de suite, extrait de Phèdre de Racine, acte 5, de la scène 4 jusqu'à la fin.
Quelle est donc sa pensée, et que cache un discours commencé tant de fois, interrompu toujours? Veulent-ils m'éblouir par une feinte vaine? Sont-ils d'accord tous deux pour me mettre à la gêne? Mais moi-même, malgré ma sévère rigueur, quelle plaintive voix crie au fond de mon cœur? Une pitié secrète et m'afflige et m'étonne. Une seconde fois, interrogeons Hénon. Je veux, de tout le crime, être mieux éclairci. Garde, qu'Hénon sorte et vienne seul ici.
J'ignore le projet que la reine médite, Seigneur, mais je crains tout du transport qui l'agite. Un mortel désespoir sur son visage est peint. La pâleur de la mort est déjà sur son teint. Déjà de sa présence avec honte chassée, dans la profonde mer, Hénon s'est lancé. On ne sait point d'où part ce dessein furieux. Et les flots, pour jamais, l'ont ravi à nos yeux.
Qu'entends-je?
Son trépas n'a point calmé la reine. Le trouble semble croître en son âme incertaine. Quelquefois, pour flatter ses secrètes douleurs, elle prend ses enfants et les baigne de pleurs. Et soudain, renonçant à l'amour maternel, sa main, avec horreur, les repousse loin d'elle. Elle porte au hasard ses pas irrésolus. Son œil, tout égaré, ne nous reconnaît plus. Elle a trois fois écrit, et changeant de pensée, trois fois elle a rompu sa lettre commencée. Daignez la voir, Seigneur, daignez la secourir.
Ô ciel, Hénon est morte et Phèdre veut mourir. Qu'on rappelle mon fils, qu'il vienne se défendre. Qu'il vienne me parler, je suis prêt de l'entendre. Ne précipite point tes funestes bienfaits. Neptune, j'aime mieux n'être exaucé jamais. J'ai peut-être trop cru des témoins peu fidèles, et j'ai trop tôt vers toi levé mes mains cruelles. Ah, de quel désespoir mes vœux seraient suivis. Théramène, est-ce toi? Qu'as-tu fait de mon fils? Je te l'ai confié dès l'âge le plus tendre. Mais d'où naissent les pleurs que je te vois répandre? Que fait mon fils?
Ô soin tardif et superflu, inutile tendresse, Hippolyte n'est plus.
Dieu,
j'ai vu des mortels périr le plus aimable. Et j'ose dire encore, Seigneur, le moins coupable.
Mon fils n'est plus. Et quoi, quand je lui tends les bras, les dieux impatients ont hâté son trépas. Quel coup me l'a ravi? Quelle foudre soudaine?
À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. Ses gardes affligés imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène. Sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes. Ses superbes coursiers, qu'on voyait autrefois plein d'une ardeur si noble, obéir à sa voix, l'œil morne maintenant et la tête baissée, semblaient se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri sorti du fond des flots, des airs, en ce moment a troublé le repos, et du sein de la terre, une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé, des coursiers attentifs, le crin s'est hérissé. Cependant, sur le dos de la plaine liquide, s'élève à gros bouillons une montagne humide. L'onde approche, se brise et vomit à nos yeux, parmi des flots d'écume, un monstre furieux. Son front large est armé de cornes menaçantes. Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes. Indomptable taureau, dragon impétueux, s'accroupe, se recourbe en repli tortueux. Ses longs mugissements font trembler le rivage. Le ciel, avec horreur, voit ce monstre sauvage. La terre s'en émeut, l'air en est infecté. Le flot qui l'apporta recule, épouvanté. Tout fuit, et sans s'armer d'un courage inutile, dans le temple voisin, chacun cherche un asile. Hippolyte, lui seul, digne fils d'un héros, arrête ses coursiers, saisit ses javelots, pousse au monstre, et d'un dard lancé d'une main sûre, il lui fait dans le flanc une large blessure. De rage et de douleur, le monstre bondissant vient aux pieds des chevaux, tombés en mugissant, se roule et leur présente une gueule enflammée qui les couvre de feu, de sang et de fumée. La frayeur les emporte et sourds à cette fois, ils ne connaissent plus ni le frein ni la voix. En efforts impuissants, leur maître se consume. Ils rougissent le mort d'une sanglante écume. On dit qu'on a vu même, en ce désordre affreux, un dieu qui d'aiguillon pressait leurs flancs poudreux. À travers les rochers, la peur les précipite. Les cieux crient et se rompent. L'intrépide Hippolyte voit voler en éclats tout son char fracassé. Dans les rênes, lui-même, il tombe, embarrassé. Excusez ma douleur. Cette image cruelle sera pour moi de pleurs une source éternelle. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils traîné par les chevaux que sa main a nourris. Il veut les rappeler et sa voix les effraie. Il court, tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. De nos cris douloureux, la plaine retentit. Leur fougue impétueuse enfin se ralentit. Ils s'arrêtent, non loin de ces tombeaux antiques, où des rois, ses aïeux, sont les froids de reliques. J'y cours, en soupirant, et sa garde me suit. De son généreux sang, la trace nous conduit. Les rochers en son teint, les ronces dégoûtantes, portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. J'arrive, je l'appelle, et, me tendant la main, il ouvre un œil mourant qu'il referme soudain. « Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie. Prends soin, après ma mort, de la triste Aricie. Cher ami, si mon père, un jour désabusé, plaint le malheur d'un fils faussement accusé, pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive, dis-lui qu'avec douceur il traite sa captive, qu'il lui rende. À ce mot, ce héros expiré n'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré, triste objet où des dieux triomphe la colère et que méconnaîtrait l'œil même de son père.
Oh, mon fils, cher espoir que je me suis ravi, inexorable Dieu qui m'avait trop servi, à quel mortel regret ma vie est réservée.
La timide Aricie est alors arrivée. Elle venait, Seigneur, fuyant votre courroux, à la face des dieux l'accepter pour époux. Elle approche, elle voit l'herbe rouge et fumante, elle voit quel objet pour les yeux d'une amante, Hippolyte étendu, sans forme et sans couleur. Elle veut quelque temps douter de son malheur, et ne connaissant plus ce héros qu'elle adore, elle voit Hippolyte et le demande encore. Mais trop sûre à la fin qu'il est devant ses yeux, par un triste regard, elle accuse les dieux. Et froide, gémissante et presque inanimée, aux pieds de son amant, elle tombe pâmée. Ismène est auprès d'elle. Ismène, tout en pleurs, la rappelle à la vie, ou plutôt aux douleurs. Et moi, je suis venu, détestant la lumière, vous dire d'un héros la volonté dernière, et m'acquitter, Seigneur, du malheureux emploi dont son cœur expirant s'est reposé sur moi. Mais j'aperçois venir sa mortelle ennemie.
Eh bien, vous triomphez, et mon fils est sans vie. Ah, que j'ai lieu de craindre et qu'un cruel soupçon, l'excusant dans mon cœur, m'alarme avec raison. Mais, madame, il est mort. Prenez votre victime. Jouissez de sa perte injuste ou légitime. Je consens que mes yeux soient toujours abusés. Je le crois criminel puisque vous l'accusez. Son trépas à mes pleurs offre assez de matière sans que j'aille chercher d'odieuse lumière qui, ne pouvant le rendre à ma juste douleur, peut-être ne ferait qu'accroître mon malheur. Laissez-moi, loin de vous et loin de ce rivage, de mon fils déchiré, fuir la sanglante image. Confus, persécuté d'un mortel souvenir, de l'univers entier je voudrais me bannir. Tout semble s'élever contre mon injustice. L'éclat de mon nom même augmente mon supplice. Moins connu des mortels, je me cacherais mieux. Je hais jusqu'aux soins dont m'honorent les dieux, et je m'en vais pleurer leur faveur meurtrière, sans plus les fatiguer d'inutiles prières. Quoi qu'ils fissent pour moi, leur funeste bonté ne me saurait payer de ce qu'ils m'ont ôté.
Non, Thésée, il faut rompre un injuste silence. Il faut à votre fils rendre son innocence. Il n'était point coupable.
Père infortuné, et c'est sur votre foi que je l'ai condamné. Cruel, pensez-vous être assez excusé?
Les moments me sont chers. Écoutez-moi, Thésée. C'est moi qui, sur ce fils chaste et respectueux, osais jeter un œil profane, incestueux. Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste. La détestable Hénone a conduit tout le reste. Elle a craint qu'Hippolyte, instruit de ma fureur, ne découvrit un feu qui lui faisait horreur. La perfide, abusant de ma faiblesse extrême, s'est hâté à vos yeux de l'accuser lui-même. Elle s'en est punie, et fuyant mon courroux, a cherché dans les flots un supplice trop doux. Le fer aurait déjà tranché ma destinée, mais je laissais gémir la vertu soupçonnée. J'ai voulu, devant vous, exposant mes remords, par un chemin plus lent, descendre chez les morts. J'ai pris, j'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison que Médée apporta dans Athènes. Déjà, jusqu'à mon cœur le venin parvenu, dans ce cœur expirant, jette un froid inconnu. Déjà, je ne vois plus qu'à travers un nuage et le ciel et l'époux que ma présence outrage. Et la mort, à mes yeux dérobant la clarté, rend au jour qu'il souillait toute sa pureté.
Elle expire, Seigneur,
d'une action si noire que ne peut avec elle expirer la mémoire. Allons, de mon erreur, hélas, trop éclaircie, mêlez nos pleurs au sang de mon malheureux fils. Allons de ce cher fils embrasser ce qui reste. Expiez la fureur d'un vœu que je déteste. Rendons-lui les honneurs qu'il a trop mérités. Et pour mieux apaiser ses mânes irritées, que, malgré les complots d'une injuste famille, son amante, aujourd'hui, me tienne lieu de fille.
Phèdre de Racine, un enregistrement France Culture avec la Comédie Française.
France Culture, écoutez, révisez, Olivia Gesbert.
Vous venez d'entendre le récit de Théramène, ce qu'en disent maintenant professeurs et inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Critiqué à sa sortie, ce passage de Phèdre sera jugé trop long et trop orné. Le poète Oudard de Lamotte juge certains vers trop précieux, trop recherchés dans la bouche d'un homme accablé de douleur. Un défenseur de Racine, Morvan de Bellegarde, louera au contraire le talent de Racine pour donner à voir l'irreprésentable. Il note à l'époque de la création de la pièce que le spectateur est autant attendri par cette narration que s'il voyait de ses yeux Hippolyte traîné par ses chevaux et Arissi pâmé auprès du corps de son amant qui expire. Racine, un auteur qui met l'imaginaire à contribution. Les mots « j'ai vu » inaugurent le récit, tandis que le spectacle du corps mort d'Hippolyte nous est donné à voir par les yeux d'Arissi. Elle approche, elle voit l'herbe rouge et fumante, elle voit quel objet pour les yeux d'une amante, Hippolyte étendu. On voit aussi la solitude d'Hippolyte face au monstre qui donne à ce combat toute sa gloire. On voit également tous ses gestes, ses expressions, décrits avec précision par l'auteur, comme la main d'Hippolyte qui sur ses chevaux laisse flotter ses rênes, traduisant la langueur du jeune homme sur le chemin de l'exil. On entend enfin le rythme changeant des Alexandrins qui donne de la vigueur à la narration. Racine n'hésite pas à effacer la césure pour à la fois accélérer le récit et en mimer le contenu. Tout fuit et sans s'armer d'un courage inutile. Ou bien, il court, tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. Si la structure de la tragédie tout entière peut sembler musicale, ordonnée par une suite d'aveux aux allures de Lamento, le récit de Théramène a sa propre bande-son. Un solo de cris de douleur, l'oraison funèbre devient un oratorio. Racine associe la pitié à l'horreur par le jeu discret des paroles rapportées. Les derniers mots et la voix à l'agonie du héros. Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie. Ou encore la voix brisée du messager au désespoir. Excusez ma douleur, et moi, je suis venu, détestant la lumière, c'est-à-dire au sens figuré la vie. Ou enfin, les premiers mots du père, enchaînement de questions et d'interjections qui font entendre l'angoisse puis résonner son chagrin. « Est-ce toi ? Qu'as-tu fait de mon fils ? Que fait mon fils ? Mon fils n'est plus ? Et quoi ? Quand je lui tends les bras, quel coup me l'a ravi ?» Une douleur, décuplée par sa culpabilité d'avoir voulu se venger d'un fils qu'il croyait son rival. Les dieux, Vénus pour Phèdre, Neptune pour Thésée, n'existent que parce qu'ils sont nommés. L'apparition du monstre reste inexpliquée dans le récit de Théramène. C'est Thésée qui y voit l'œuvre de sa prière. Souvenez-vous quand il dit « Inexorable Dieu qui m'avait trop servi ». La mort d'Hippolyte apparaît alors comme la réalisation d'un désir tabou, celui d'un père qui veut éliminer son propre fils. Rappelons que le décor de la pièce est un palais voûté, comme si ce huis clos était aussi une entrée à l'intérieur d'une conscience, la conscience des personnages, et peut-être aussi la nôtre. Si dès la première édition, Racine choisit de mettre la mort d'Hippolyte en avant de sa tragédie, c'est sans doute que ce moment représentait pour lui le point culminant d'une écriture de la déploration, où le pathétique et le redoutable se conciliaient parfaitement. C'est aussi parce que Racine pensait avoir accompli ici un idéal difficilement accessible de l'esthétique classique, concilier harmonieusement le merveilleux et le vraisemblable. C'est enfin parce que ce récit est, par nature, un véritable moment de création poétique immédiate où le poète convoque l'imaginaire du spectateur. Par tous les moyens du verbe, il peint un large tableau offrant à son public la possibilité de devenir co-créateur du spectacle. Maintenant, tous à vos livres, c'était Écouter, Réviser, une émission produite par France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale. Un grand merci à Patrick Laudet, inspecteur général qui a supervisé cette programmation, et à Cyril Chervet, professeur, qui a préparé l'analyse du jour. Fiction coordonnée par Blandine Masson et Sophie Haute-Picon avec Mathieu Tourin à la technique. Vous pouvez réécouter l'intégralité de l'enregistrement de 2015, Phèdre de Racine, réalisé au 104 de la Maison de la Radio sur franceculture.fr. Mise en onde, Thomas Duterre. Sur franceculture.fr, vous pouvez également retrouver toutes les informations en lien avec l'émission, compilées et mises en page par Laura Dutèche-Pérez. À demain pour un nouveau numéro de Écouter, Réviser. Très bel après-midi à tous sur France Culture.